J'ai écouté samedi matin une émission sur la langue, francisation des termes anglais, féminisation des titres, réticence de l'académie. J'ai eu l'impression que cela faisait 30 fois que j'entendais ces vieux débats et j'ai éteint la radio. Mais j'y ai repensé le dimanche soir. Et plutôt qu'à un continent menacé par le progressisme et la mondialisation, je me suis dit soudain que la langue était un luxe prodigieux et que le français, en l'état, était une patrie gigantesque. Et je ne parle pas de la francophonie et de ces chiffres qui prédisent, contre toute attente, après ces vexatoire succès de l'anglais, de l'espagnol et même du portugais, un spectaculaire comeback du français. Je veux parler plus modestement de mon sentiment de lecteur. Il existe d'ailleurs une théorie qui fait de la défense de la francophonie une cause possible du génocide rwandais. Celui-ci aurait été joué par certains officiels français ayant fait de la lutte contre les anglicismes une cause nationale, comme une revanche de Fashoda, de cet instant où les prétentions coloniales françaises, parties pour rayer toute l'Afrique d'ouest en est, de l'AOF à Djibouti, se sont heurtées en 1898 devant le fort de Fashoda au Soudan, aux prétentions de l'Angleterre, désirant, elle, relier l'Égypte à l'Afrique du Sud en coulissant dans la vallée du Rift. Le renoncement français d'alors, la soumission aux intérêts impériaux britanniques, ne devait plus hanter que quelques diplomates coloniaux retraités quand se présenta l'occasion d'une revanche, presque un siècle plus tard. Ce fut en tout cas l'une des lectures qu'on put se faire en France de la guerre civile qui précéda le génocide et qui vit des rebelles tutsis venus de l'Ouganda anglophone remonter dangereusement vers Kigali. La défense de la langue française à sa légende noire, la francophonie, ses zones d'ombre. À la même époque, j'avais assisté pourtant ébahi aux travaux de la nouvelle piscine dans la petite ville d'Essonne où j'habitais, piscine qui devait originellement accueillir les Jeux de la francophonie en 1992. On n'a jamais su pourquoi les épreuves de natation se sont déroulées ailleurs et si la légende urbaine a longtemps expliqué que le bassin olympique était trop court de quelques centimètres, j'imagine que les raisons de ce fiasco étaient plutôt politiques. Je me souviens aussi, un peu auparavant, avoir correspondu avec les enfants d'une école française du Gabon. Nos correspondances étaient fascinants et lassants à la fois, nous faisaient parvenir tous les mois de nouvelles photos de l'Équateur, ou plutôt d'un panneau qui signalait sa présence au bord d'une route en terre rouge. J'étais le seul garçon à correspondre avec une fille, elle avait les cheveux courts, et je la confondais avec la Claude du Club des Cinq. Je n'ai jamais compris pourquoi cet échange épistolaire s'était arrêté brutalement. Une rapide enquête sur l'histoire politique du Gabon témoigne cependant d'une situation tendue avec deux tentatives de coup d'État suivies d'une grande conférence nationale et d'une timide ouverture vers le multipartisme. Omar Bongo devait se maintenir encore 29 ans au pouvoir, mais je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma correspondante. J'ai dit, malgré tous les déboires de la langue française et tous les fantômes de la francophonie, la certitude soudaine que j'ai eue dimanche que la langue française était un continent merveilleux. Comme souvent, je lisais plusieurs livres à la fois et j'ai réalisé la chance, le prodige qu'il soit ainsi possible, au sein d'une langue unique, d'accéder à des expériences si variées. Le premier livre que je lisais était un essai sur saint Thomas d'Aquin et je me réjouissais bizarrement que les citations latines n'y soient pas traduites. C'était comme si le français communiquait encore avec ce latin transparent parlé autrefois à la Sorbonne et appris pendant des siècles comme une langue autrement plus envahissante que l'anglais ne le sera jamais. Anglais dont j'ai d'ailleurs fini par découvrir, en dépit de cette stupide obsession de l'éducation nationale pour ses soi-disant faux amis, un héritage sans doute des vexations de Fashoda, que c'était à plus de 60% du français, ici ou là, encombré de monologues, de monosyllabes saxons. Je lisais ensuite, dans l'une des trois ou quatre traductions disponibles, l'idiot de Dostoïevski, qu'on puisse lire les classiques russes dans plusieurs traductions, c'est peut-être cela la meilleure définition du français, c'est en tout cas l'une de ses plus réjouissantes. Le troisième livre que je lisais, enfin, c'était la Bible, et ce si rapide Bereshit initial, qui donnait ce si languissant et si français au commencement, résonnait par avance de ses futures traductions qu'on lui trouverait, et pourquoi pas, at the first.